Bien, mesdames, messieurs, on va peut-être pouvoir commencer. Merci de vous être rendu disponible. Je vais déjà présenter les excuses de Marc Jotty qui a donné procuration à Mireille Papin, Pierre Achard qui a donné procuration à Antoine Di Paolo et Raymond Repellini qui a donné procuration à Claude Bruno. Raymond, que j'ai eu ce week-end, est toujours bien sûr souffrante. Son traitement évolue, mais elle est très fatiguée et très déprimée. Après, on verra bien. J'ai tout de suite passé, alors je demande à Mireille si elle veut faire assurer le secrétariat, bien évidemment, du conseil municipal et du DOB. Je vais passer la parole tout de suite à Michel et qui va nous faire nous présenter une invitée.
Bonjour. Je vais vous présenter le débat d'orientation budgétaire 2025. Je vous présente en bout de table à côté de Corinne, une autre Corinne, Corinne Touchant, qui est actuellement en stage chez nous et en immersion, en stage de reclassement professionnel et qui souhaitait venir voir un conseil municipal. Donc on l'a invité à se joindre à nous aujourd'hui pour voir comment ça se passait. Voilà. Donc, je vais vous présenter le débat d'orientation budgétaire 2025. Donc, c'est toujours la même articulation. Hein. Donc, vas-y si tu peux. Voilà. Donc, je vous rappelle le règlement. Un débat d'orientation budgétaire, c'est une étape essentielle. C'est une étape obligatoire. C'est pour le micro. Voilà, donc le débat d'orientation budgétaire, donc étape essentielle hein, puisque, et obligatoire, puisqu'on doit vous donner tous les éléments qui vous permettent effectivement de constater de façon objective la situation financière de la commune et qui vous permettent de vous informer pour qu'ensuite vous puissiez voter le budget primitif dont on parle un petit peu, mais qui vous sera présenté au mois de mars, le 24 mars, lors du conseil municipal. Donc, c'est une étape obligatoire dans les communes de plus de 3 500 habitants. Donc là, je vous relis pas tout. Hein, c'est ce que ça doit, ce que le débat d'orientation budgétaire doit comporter. C'est les évolutions des dépenses et recettes en fonctionnement comme en investissement. Normalement, on doit aussi donner toutes les hypothèses d'évolution. Vous verrez, c'est un peu ce qu'on reprend quand on reprend les tableaux. On doit vous parler de la fiscalité. On doit vous parler effectivement des engagements qu'on va prendre qu'on souhaite prendre en investissement en matière de programmation. Et puis tous les renseignements sur la structure et la gestion de l'encours de la dette contractée. Puisque vous savez que c'est quand même important et qu'on est au niveau du Trésor public et au niveau de la préfecture très surveillé aussi sur le taux d'endettement que peut présenter une commune. Mais c'est prévu, donc je vous le présenterai dans le débat d'orientation budgétaire. Voilà. Donc le contexte général 2025, encore une fois, et malheureusement, il s'inscrit dans un contexte général d'incertitude. Hein, je ne vais pas vous refaire BFM TV avec toutes les choses un peu angoissantes, mais c'est vrai. Et ça a bien entendu un impact sur l'économie en général, donc la guerre en Ukraine, la guerre au Moyen-Orient. Alors là, j'avais mis que l'élection de Donald Trump faisait peser le risque de mise en place de tarifs douaniers. Bon, mais pour l'instant, il en parle toujours, mais ils ne sont pas encore mis en place. C'est une politique plus imprévisible. On voit un peu ce qui se passe ces derniers jours. Donc d'autres éléments qui sont à prendre en compte dans les orientations budgétaires. La France, donc, il y a un gouvernement qui ne dispose que d'une faible majorité et un budget. Alors, j'avais mis qui, à ce jour, n'est pas voté, parce que quand je l'ai préparé, il n'était pas voté. Bon, maintenant, il l'est. Voilà. Mais bon, ce n'est pas non plus d'une force et d'une durée, on ne sait pas trop. Voilà. Un effort financier qui va être demandé aux collectivités locales. Alors, la loi de finances qui avait été prévue auparavant, qui n'a pas été voté, présentait un plan de restriction des dépenses aux collectivités locales qui était importante. Bon, à mon avis, il ne sera peut-être pas au même niveau, mais de toute façon, on va quand même certainement nous demander encore de faire des économies. Et puis, on a la prise en compte des réformes qui sont décidées, comme je vous en ai parlé plusieurs fois, et surtout au niveau du personnel, qui sont décidés unilatéralement par le gouvernement. Et par exemple, cette année, on a l'augmentation de 4 points du taux de charge patronale de CNRACL. Donc, c'est déjà quelque chose d'important. Mais sachant qu'on aura la même chose en 2026, la même chose en 2027 et la même chose en 2028.
Dans les quatre points d'augmentation, c'est 80 000 euros pour cette année.
Voilà.
Donc, comme c'est calé sur la masse salariale, moi, j'ai calculé sur les 4 ans à venir, on sera aux alentours de 350 000 euros.
Voilà. Donc, c'est rien, c'est... Voilà. Et, mais après, à part ça, on va vous dire que les collectivités locales dépensent trop. Mais bon. Donc, on pense quand même, et vous verrez quand même qu'en dépit de ce contexte, on va lancer d'autres travaux. On vous en a déjà parlé en réunion plénière et quand on se voit. Mais bien sûr, ça sera toujours dans une politique de prudence, c'est-à-dire que si effectivement certains éléments venaient à être trop importants, il y a des investissements qu'on peut effectivement décider soit de ne pas faire en totalité, soit de reporter, soit de ne pas faire du tout, si vraiment ce n'est pas possible. Voilà. Alors, dans la zone euro, la croissance économique, elle entre 0,8 et 1,25 en 2025. Bon, là, c'est toujours pareil. Hein, c'est toujours des prévisions qui sont relativement optimistes, mais qui ne sont pas toujours atteintes. La dynamique de croissance est très différente selon les pays. En France, on a eu une augmentation en 2024, mais parce qu'on a effectivement eu l'événement temporaire des Jeux Olympiques qui ont un peu dynamisé le tourisme, le commerce et des choses comme ça, qui malheureusement ne se reproduisent pas, enfin malheureusement ou heureusement parce que ça a d'autres dépenses, mais voilà, c'était quelque chose de très ponctuel. L'inflation va continuer à diminuer en 2025, elle l'a été aussi en 2024, hein, l'inflation a baissé aussi en 2024 et elle va certainement baisser beaucoup en raison de la baisse des prix de l'énergie. Mais dans le secteur des services, c'est beaucoup plus lent. Donc, on table encore sur une inflation de 1,8 en 2025, après 2,3 en 2024. Donc, ça reste dans des limites plus raisonnables que ce qu'on a pu connaître les dernières années. Et la mise en place des nouveaux droits de douane, qui va faire peser un risque sur notre économie, puisqu'une hausse de 10% des droits de douane conduirait à une baisse du produit intérieur brut d'environ 0,5 après un an et 1% après 3 ans. Donc, c'est important et c'est encore des choses négatives qui peuvent être... Parce qu'effectivement, les droits de douane vont impacter les importations qu'on peut faire, les exportations qu'on peut faire aux États-Unis. Donc en France, pareil, hein, la croissance, pareil, 1,1% comme en 2023. Pas beaucoup d'espoir de relance. Hein, ça se maintiendrait à peu près au même niveau. Parce qu'effectivement, toujours les aléas d'une instabilité politique, d'une instabilité économique dont on ne connaît vraiment pas tous les tenants et tous les aboutissants. Alors la croissance, elle est portée principalement par le commerce extérieur et les dépenses publiques, mais la situation politique reste un facteur important d'incertitude, hein, on est bien placé pour le savoir. Et du côté des ménages, il y a une petite reprise de la consommation, mais par exemple dans l'immobilier, on se rend compte pour l'instant que c'est une catastrophe, puisque les agents immobiliers disent que les jeunes ne veulent plus investir. Enfin, dans toute période où c'est comme ça incertain, c'est pas ce qui vous incite à investir et à dépenser un peu plus, au contraire. Donc l'inflation sur la France s'établirait à 2,3 et 1,7 en 2025. Les prix d'énergie devraient rester contenus. L'électricité baisse, mais le gaz augmente fortement. Et puis, côté service, la progression continue, puisqu'effectivement, il y a eu des hausses de salaire et que du coup, ça impacte sur l'activité. Alors que l'emploi public continue de progresser, la dynamique de l'emploi privé s'essouffle. Vous avez entendu qu'il y a une légère remontée du chômage. Donc en 2024, ce qui est plus inquiétant, c'est le déficit public, hein, puisqu'il devrait atteindre 6,1%. Enfin, en 2024, il aurait atteint 6,1% contre 4,4% dans le projet de loi de finances. Donc vous voyez qu'on est quand même à pratiquement deux points d'écart et 5,5% de programme de stabilité. Donc ça veut dire qu'en 2024, il y aurait encore eu un dérapage financier qui est important et la situation politique actuelle, je ne sais pas s'il y a énormément de prévisions de baisse des dépenses dans le nouveau projet de loi de finances. Voilà. Alors Saint-Étienne Métropole, ils sont logés à la même enseigne que nous, hein, ils ne peuvent pas ignorer non plus le projet de loi de finances. Parce que c'est vrai qu'on leur avait demandé au niveau des communautés de communes un plus grand effort encore qu'aux communes. SEM pourrait voir ses recettes 2025 diminuer d'un montant de 12 millions, avec un impact direct sur les niveaux d'épargne. C'est-à-dire que 12 millions sur un pro, ce qui est, bon, ils ont un budget important. Je ne me rappelle plus la hauteur du budget de sa métropole, c'est 100.
Le budget 2025, c'est 160 millions d'euros.
Voilà, en investissement.
Et l'audit qui avait été fait l'an dernier disait qu'on pouvait aller jusqu'à 140 millions, alors à la condition qu'on ait 40 millions de fonds propres, capacité d'autofinancement. Là, actuellement, ils tablent plutôt sur 18, qui pourraient être amenés à 12 millions. Ça veut dire que s'il n'y a pas de fonds propres, c'est le recours à l'emprunt.
Voilà. Donc il doit bien entendu, ben, comme nous, hein, c'est bien beau de dire qu'on peut faire des économies, mais dans une commune, il y a des choses, et bien, il faut quand même avoir des projets. Il faut déjà entretenir ce qu'on a, que ce soit du matériel, du mobilier, des bâtiments. Il faut avoir une certaine dynamique. Et effectivement, ben, c'est pareil pour Saint-Étienne Métropole. Ils ont des projets. Ils veulent améliorer la qualité de vie des habitants comme nous, on le souhaite. Et puis voilà, mais malgré tout ça, ben c'est compliqué quand le budget diminue. Et malgré les ponctions financières redoutées, ils vont maintenir le niveau de reversement qu'ils font aux communes. Parce que vous savez, quand les communautés de communes se sont créées, toute la taxe professionnelle est venue abonder le budget de la communauté de communes. Mais Saint-Étienne Métropole est une des communautés de communes où il y a un reversement qui est assez important par rapport à la dotation de solidarité communautaire, où ils nous reversent, si vous voulez, l'équivalent à peu près de la taxe professionnelle qu'on avait au moment où la communauté de communes s'est créée. Donc ça, c'est important parce qu'effectivement, ça nous fait une recette aussi importante. Pour tenir compte, donc, Saint-Étienne Métropole doit fournir des efforts pour arriver à contenir l'évolution des charges de fonctionnement, ce qu'on fait nous aussi, hein, puisqu'on demande chaque année à nos services 5%, de baisser de 5% leur budget nécessaire pour tourner. Et ils vont eux aussi essayer de les contenir, voire de les diminuer, et qui permettent de restaurer un niveau d'épargne suffisant pour maintenir un niveau d'investissement proche de 160 millions, ce que vous expliquez à M. le maire, qui normalement est 20 millions au-delà de ce que leur conseillait le cabinet d'audit qu'ils ont fait intervenir, qui trouvait que 140 millions, c'était déjà un niveau d'investissement très important.
Vous avez vu, la presse en effet l'écho. Donc, 5e Métropole, il y a 19 vice-présidences. Quand ils ont bâti leur budget, chaque vice-présidence chiffrant ses besoins d'investissement, ils étaient à 200 ou 220 millions. Donc il a fallu effectivement arbitrer. Alors vous en avez entendu parler, il y a la Cité du Design, il y a la patinoire, entre autres. Donc le budget qui sera présenté au mois de mars, ça sera 160 millions. Mais déjà, lors du dernier conseil métropolitain de la semaine dernière, des élus communautaires ont demandé à ce que ce soit moins encore, pour se rapprocher des 140 millions. 140 millions, je vous rappelle, hein, à condition qu'on ait 40 millions de fonds propres, ce qui n'est pas le cas. Et comme l'a dit Sylvie Fayolle, elle dit oui, mais le problème, c'est quand on fait un budget d'investissement, il y a des engagements qui sont pris sur le long terme qu'il faut bien honorer. C'est notre cas, par exemple, à Saint-Prié. En 2018, on a lancé la convention avec Epora pour l'acquisition de l'îlot 2. On sait que la facture d'Epora va être environ €1,5 million. Bien évidemment, on a vendu le terrain, donc on aura peut-être 700 000 € à charge au niveau de la commune. On aurait pu ne rien faire. La prudence qu'on a eue, c'était de provisionner chaque année 120 000 €. Donc ça ne viendra pas impacter notre budget 2025, puisque le financement de cet investissement, on l'a déjà provisionné, on l'a déjà mis de côté. Bon, à Métropole, ce n'est pas le cas. Donc ils vont avoir cette année, on le découvrira au mois de mars, des engagements qui ont été pris depuis 2018 et depuis 2019 qu'il faut bien honorer. Pas s'imaginer que c'est simplement, tiens, on a 160 millions, où est-ce qu'on va les dépenser ? Il faut déjà, dans ces 160 millions, honorer les engagements qui ont été pris antérieurement. C'est la continuité du service. Hein.
Donc on va venir sur ce qu'on pourrait presque appeler, mais qu'on fera au mois de...
Il n'y a pas de questions sur le contexte général, qu'il soit national, international, local ? Alors, une petite nuance sur ce que disait sur Métropole. Vous savez que les coups de rabot, comme on a dit sur les budgets, Métropole devrait avoir 18 millions de capacités d'autofinancement. Ils avaient fait des estimations. Entre ce qu'ils ne toucheront pas en recettes supplémentaires et les puits, les abattements, ils pensaient tomber à 12 millions. Alors, vous voyez, objectif 40 millions, réalité 12 millions. Nous, on n'est pas impactés, puisqu'on n'a plus de dotation globale de fonctionnement depuis 2019. Donc l'État peut raboter ce qu'il veut. un coup de rabot sur rien, ça reste rien. Par contre, dans les dotations de solidarité qu'évoquait Michel Bisaccia, donc c'est ce que l'État verse aux collectivités, en particulier à l'intercommunalité, qui, en fonction d'une clé de répartition, reverse aux communes. Et là, il y a quand même une incertitude. Si la ponction sur ces financements d'État est trop importante pour la métropole, il y aura un impact sur la redistribution aux communes. Alors, pour nous, ça sera peut-être marginal, mais pour autant, il peut y avoir un impact.
Donc, on va déjà voir ce qu'on a fait en 2024 au niveau des recettes, hein, puisque quand on bâtit un budget, on regarde d'abord ce qu'on a comme argent, et puis après, on voit comment on peut le dépenser. Donc, on voit qu'en 2024, les recettes se sont élevées à 9 504 000, soit une augmentation de 3,18%, donc ce qui est déjà pas mal. On voit essentiellement que la majorité de la composition de nos recettes se situe au niveau des recettes fiscales, hein, bien sûr, des impôts. On a une augmentation quand même qui est relativement importante puisqu'on est passé de 7 634 000 à 7 972 000. Alors, ça s'explique surtout en 2024, il y a eu une hausse importante des bases. Vous savez que les impôts locaux, ce sont l'État qui fixe l'augmentation des bases, c'est-à-dire l'assiette de l'impôt. Et après, la commune met un taux sur ces bases-là. En 2024, il y a eu une augmentation de 3,9% des bases, qui était très important, parce que les bases sont calculées sur l'inflation. Donc, comme l'inflation en 2024 a été importante, l'augmentation des bases l'a été aussi. Donc, à partir de là, comme on a un petit peu en plus augmenté les impôts en 2024, du coup, on a eu un double effet, c'est-à-dire que les bases plus les taux ayant augmenté, on a effectivement augmenté le résultat des recettes fiscales. Et puis aussi, il y a aussi la prise en compte des nouveaux logements, la fin, par exemple, de certains bâtiments où il y a des exonérations de taxes pendant 2 ans, et bien, au bout de 2 ans, ça arrive et ça tombe. Donc, vous savez que la population a augmenté en 2021, puisqu'on a eu le recensement, la population a augmenté à Saint-Priest-en-Jarret. Tout ça, effectivement, a un effet positif. Hein. En sachant que je vous rappelle qu'on ne touche, enfin, que la taxe d'habitation n'existe plus. On a une compensation de l'État au niveau de la taxe d'habitation. Mais même problème que pour la taxe professionnelle à un moment qui a été supprimée. Là, on a une compensation. Mais le problème de la compensation, c'est qu'elle a été fixée une certaine année. Donc, on n'a plus de dynamisme au niveau de la taxe d'habitation qui nous permettrait... Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a, pendant quelques années, augmenté la taxe foncière. On ne le fera pas en 2024 puisque on considère que nos... En 2025, pardon. On considère que nos recettes sont suffisantes pour arriver à couvrir nos besoins. Mais voilà, et cette année, les bases seront moins importantes. Elles sont, je crois que c'est 1,7 hein, cette année, le taux d'augmentation. Donc, vous voyez, c'est beaucoup moins important que l'année dernière. Donc, en 2025, les recettes devraient être un petit peu, peut-être stables. S'il y a de nouveaux logements qui sont pris en compte, elle peut avoir effectivement une nouvelle impulsion.
Sur la taxe foncière, sur le taux communal, en 2024, on a augmenté d'un demi-point, 0,5. On a entendu parler comme à Saint-Étienne, c'était 15%. Oui. Comment? C'est un tout petit peu de...
Non, en fait, oui, il faudra l'enlever. La DGF, elle n'existe plus. C'est les autres dotations, en fait. C'est la DSR.
Mais on ne reçoit plus rien de l'État.
Non, de l'État, on ne reçoit plus rien. Oui, effectivement, je n'avais même pas fait attention que c'était encore sur la légende. Non, les dotations, c'est la dotation de solidarité urbaine, des choses comme ça qu'on touche, mais qui sont vraiment à la marge. Voilà. Et puis après, les autres produits réels, c'est ce qu'on touche des contribuables qui utilisent nos services, hein, que ce soit la crèche, le jardin d'enfants, l'accueil périscolaire, le pôle enfant jeunesse, donc ça c'est nos recettes. Et puis voilà les autres dotations. Voilà. Donc les concours financiers de l'État, là c'est pareil, on revoit DGF, mais en fait c'est la dotation de solidarité rurale qui a été un petit peu supérieure en 2024, en 2025. Vous dire pourquoi, je ne sais pas, parce que les dotations, quand vous essayez de comprendre comment elles sont calculées, je crois que même l'énarque du plus haut niveau, il ne comprend pas. En fait, c'est des éléments qui sont moulinés dans une bécane et il ressort un chiffre, mais que moi personnellement, je suis incapable de vous expliquer. Et les compensations fiscales ont augmenté aussi. Alors ça, vous savez, c'est toutes les personnes qui sont exonérées de taxes foncières. À un certain âge et en fonction d'un certain revenu, vous pouvez être exonéré de taxes foncières. L'État nous compense parce que c'est pour une fois, Ils ont pris une décision, ils nous font une compensation. Donc, c'est les compensations, l'État nous verse ce que ces gens-là auraient dû payer en taxes foncières. Donc, je pense que si ça a augmenté, c'est peut-être que notre population vieillit un peu aussi. Donc, il y en a peut-être un peu plus. C'est possible. Voilà. Donc, vous voyez quand même une augmentation qui est à peu près la même que l'année dernière, de 11,38% des concours financiers. Ben, tant mieux. Tant que c'est à la hausse, c'est plutôt bien. Donc, elles ont quand même augmenté de 3,18%. Bon, c'est vrai, c'est pas énorme, mais c'est quand même une augmentation. Les recettes fiscales, donc, de 4,43%, c'est ce que je vous expliquais, à l'augmentation des bases. La réforme de la taxe d'habitation qui nous permet de garder notre produit, mais on n'a pas de certitude pour l'année d'avenir et surtout, on n'a pas de dynamisme. Et ça, c'est important parce que ce qui nous paraît bien en 2024, bien, on sera moins bien en 2028 et sera peut-être encore moins bien en 2030 parce que par rapport au volume des dépenses, bah forcément, ça restera toujours la même recette. Et donc, la progression faible des recettes nous contraint, d'autant plus que les charges, et encore une fois particulièrement celles de l'énergie, continuent de progresser. Donc, et bien, comme d'habitude, hein, quand vous avez moins de recettes ou des recettes qui stagnent un peu, eh bien, vous essayez de contenir vos charges, vous essayez de contenir vos dépenses. Donc, les charges, elles ont augmenté de 2,64, vous voyez, alors que les recettes ont augmenté de 3,18, donc on est un petit peu en dessous. On a eu un montant de charges de fonctionnement à hauteur de 8 321 000 euros en 2024, qui s'est réparti, bah, comme d'habitude et comme toujours, essentiellement par des charges de personnel. Vous voyez que sur les 8 321 000, on a 5 580 000 de charges de personnel. Toujours le problème structurel de la commune de Saint-Priest-en-Jarret, toujours dû, bien entendu, au fait qu'on propose à la population beaucoup de services. Et qui dit beaucoup de services, bah, dit beaucoup de personnel, forcément. On ne fait pas tourner une crèche ou un pôle enfant jeunesse sans personne à l'intérieur. Vous avez les charges, ce qu'on appelle les charges réelles, hein, c'est ce qui sont en vert. Ça, c'est bah, tout ce qui nous sert à fonctionner, hein, que ce soit que ça va du papier de la photocopieuse à l'essence à mettre dans les voitures et les fleurs qu'on va planter au printemps pour que la commune soit jolie. Bah, tout ça, ça rentre dans ce chapitre-là. Et puis, vous avez aussi les subventions et les participations. Alors, je vous rassure, il n'y a pas 830 000 euros de subventions. Il y a 125 000, je crois, à peu près, de subventions. Parce que les participations, c'est toutes les participations aux organismes de regroupement, que ce soit au ciel. Et puis, surtout, ce qui nous coûte très cher dans les communes, c'est le SDIS, c'est le service d'incendie. On a une très, très... Et cette année, en 2025, ça a encore augmenté. Mais ça, c'est des participations obligatoires, on n'a pas le choix. On reçoit le chiffre en début d'année et on l'inscrit comme on nous le demande. On n'a pas le choix, on est obligé de payer. Voilà, donc vous voyez que les dépenses de fonctionnement, bon, après avoir beaucoup diminué en 2020, mais je vous rappelle que c'est un chiffre un peu factice puisque c'est le chiffre de l'année du Covid, hein, où effectivement, bah, on avait peu de services, on n'a pas eu besoin de grand-chose en fonctionnement. On a une augmentation, ça c'est sûr, mais on a aussi des dépenses qui augmentent. Et on a eu cette année la mauvaise surprise du ciel qui nous facture l'énergie, puisqu'on a un groupement d'achat avec le syndicat des énergies de la Loire. Et la simple chose, c'est qu'ils avaient juste oublié de nous dire, ils ne nous avaient pas facturé la totalité des années. Pourquoi? On ne sait pas. Parce que, soi-disant, enfin, bon, on n'est pas très content de la gestion bon, qui a pu se produire à ce niveau-là. Et on a effectivement une très, très grosse augmentation. Enfin, on paye cette année, je crois, 36 mois ou quelque chose comme ça, voilà, d'énergie au lieu d'en payer. Non, pas 36, mais 26. Pardon? 22, pardon, je dis n'importe quoi. Oui, 22 mois pour rattraper ceux où vous avez oublié de nous facturer. Donc, effectivement, dans les plus de 2% d'augmentation, l'énergie y est pour beaucoup. Donc, voilà, je reprends les chiffres. Donc, on est à 8 551 321. Alors, on a encore demandé un effort au service, on a encore demandé de baisser de 5%. On sait que y a des services pour lesquels ça va devenir très compliqué. On essaye de les maintenir. Bon, après, le budget et ce qu'on présente en mars, Ce sont, je vous rappelle, des prévisions. Hein. C'est, après, on réajuste, et vous le savez, au cours de l'année, par des décisions modificatives. Si effectivement, ben, y a une casse quelque part, il y a besoin d'un argent supplémentaire, on a quand même des réserves qui nous permettent. Voilà. Mais on essaye, et on a une chef comptable qui est très, très rigoureuse, et on l'en remercie. Elle surveille les dépenses. Si elle voit qu'un service dérape, elle le constate et elle fait ce qu'il faut pour que ça ne se reproduise pas. Et effectivement, ça permet de contrôler ses dépenses. Donc, on a les charges de personnel qui ont encore augmenté l'année dernière, qui augmenteront encore plus cette année, puisque je vous ai parlé des 4 points de la caisse de retraite des agents des collectivités locales et les rattrapages des dépenses d'énergie du ciel, ce que je viens de vous expliquer. Alors, l'excédent de 2023, c'est-à-dire quand on fait la différence, en 2023, il était de 3 118 223 euros. L'excédent, c'est quand on fait la différence entre nos dépenses et nos recettes. Qu'est-ce qui nous reste ? Un excédent, c'est bien. Cette année, en 2024, il a été à 2 480 165 euros. Alors, vous allez me dire, il a beaucoup baissé. Oui, mais vous savez que quand on a un excédent de fonctionnement, cet excédent-là, soit on le garde en fonctionnement, on le garde en réserve, mais ça devient de plus en plus difficile parce qu'on a une nouvelle nomenclature budgétaire qui nous a supprimé ce qu'on appelait les dépenses imprévues. Ça n'existe plus parce qu'ils trouvaient que c'était une cagnotte qui les contrariait un peu. Donc, on est obligé un peu de dispatcher partout les réserves qu'on veut mettre. Et, mais cet excédent de fonctionnement, bon, déjà, une chose qui est obligatoire, c'est de payer le capital de l'emprunt avec. Donc, chez nous, c'est à peu près 760 000 euros. Donc, sur l'excédent, on enlève toutes les années entre 760... Enfin, cette année, en 2024, en 2025, on enlèvera 760 000 euros. Ça, c'est obligatoire. On est obligé de payer le capital. Et puis, on peut aussi, s'il nous reste encore de l'argent, et c'était le cas, puisque sur les 3 118 000 qu'on avait l'année dernière, si on enlevait 750 000 ou 760 000 euros, il en restait beaucoup. On a quand même décidé on peut basculer une partie de notre cagnotte pour les investissements. Bah, alors je reprends toujours mon exemple. C'est comme dans les ménages, quand il nous reste de l'argent, bah, on peut investir, on peut acheter quelque chose. On ne peut pas faire si on n'a pas d'économie. Voilà. Donc, ce prélèvement pour dépenses d'investissement, on l'a fait à hauteur pour 2024 de 1 479 126. C'est la première fois depuis de très nombreuses années qu'on fait un prélèvement pour dépenses d'investissement aussi important. Donc, si vous voulez, c'était quand même une réserve qu'on avait. Donc, si on rajoute ces 1 479 000 à 3 118 000, si on ne l'avait pas fait, on aurait un excédent cette année de 3 959 000. Donc, vous voyez qu'il n'a pas tant baissé que ça. Il a baissé parce qu'on s'en est servi, et vous le savez bien sûr, par rapport aux gros investissements qu'on a fait sur l'école Jules Verne en 2024. Voilà. Donc, même si le chiffre parle de baisse, il est quand même relativement stable. Et puis surtout, il est suffisant maintenant pour nous permettre effectivement d'investir 1 500 000 dans l'investissement. Ce qui n'était pas le cas avant, puisqu'on avait un excédent qui était tellement faible, enfin qui a pu être très faible, qui a toujours couvert le capital de l'emprunt, mais qui ne nous laissait pas suffisamment de marge pour pouvoir investir de façon importante comme on le fait actuellement. Donc voilà, ça c'est la courbe, hein, on voit bien le pic, mais on voit quand même que depuis 2020, on est en constante augmentation, en baisse cette année, mais pour la raison pour la raison que je vous ai expliquée. Alors, la capacité d'autofinancement net, je ne vais pas vous demander ce que c'est, je ne vais pas faire d'interro, mais je le répète toutes les années. C'est effectivement la capacité d'autofinancement qu'on a. Une fois qu'on a pris l'excédent, qu'on a enlevé le capital de l'emprunt, il nous reste nos véritables économies. C'est exactement comme chez vous, si vous avez 100 euros d'économie, mais que vous devez rembourser un emprunt à hauteur de 50 euros, eh ben, il vous reste 50 euros. Vous n'avez pas 100 euros d'économie, vous n'en avez que la partie qui vous reste à la fin. Voilà. Et donc, effectivement, bah, cette année, comme l'excédent brut, l'excédent net est en baisse, puisque, bien sûr, on a baissé le chiffre global. Alors, 2024 a été une année exceptionnelle en investissement, hein, puisqu'on a... Donc, l'encours de la dette l'a baissé en 2024 de 2,71% pour passer en dessous de la barre des 5 millions, donc 4 980 306. Donc, effectivement, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais depuis qu'on a pris la mairie en 2020, on a décidé de baisser le montant des emprunts. On empruntait plutôt 700, 800 ou 900 000 euros selon les années. Depuis, on essaye de maintenir le taux d'emprunt qu'on prend chaque année à 600 000 euros, ce qui nous semble être plus raisonnable puisqu'on avait décidé de baisser ce qu'on appelle le coût de l'emprunt par habitant. Hein. Si vous prenez le montant du capital, vous le divisez par le nombre d'habitants, ça vous donne ce chiffre-là. Donc on a baissé, mais on a quand même lancé une politique d'investissement d'ambitieux et l'objectif du baisse de taux par habitant s'est poursuivi. Donc en 2024, l'investissement essentiel, bien entendu, c'est la fin des travaux de l'école Jules Ferry, qui a ouvert en septembre pour la rentrée. Donc là, je remercie encore les équipes parce qu'on l'a fait en 18 mois et en site occupé, ce qui est quand même relativement un exploit. Et tous les autres travaux, ce que j'appelle les travaux récurrents d'investissement, qu'on est obligé de faire toutes les années, réparer une pièce, repeindre une pièce, faire des travaux. Et on a donc dépensé en investissement en 2024 4 450 000 euros, ce qui est quand même très important. Je vous rappelle qu'avant, on arrivait dans les meilleures années à investir 700 à 800 000 euros. Alors, bien sûr, et c'est ce que je vous dis, on va poursuivre ces investissements en 2025, mais on n'aurait pas eu un tel niveau d'investissement si on n'avait pas eu le plan de relance de Saint-Étienne Métropole, qui prend la moitié de ce qui reste à charge de la commune une fois enlevées toutes les autres subventions qu'on a pu avoir. Et puis, on a aussi fait une recherche importante de subventions, puisqu'on a eu une subvention d'État d'1,7 million sur l'école. C'est quand même relativement exceptionnel, parce que quand on regarde les autres communes, on n'est pas toujours subventionné à ce niveau.
Sur le plan de relance, je vous rappelle que c'était en sortie de crise sanitaire. Donc, par commune, on pouvait aller chercher jusqu'à 3 millions d'euros sur 3 dossiers. C'était la règle, hein, quelle que soit la commune. Et il avait été budgété 63 millions d'euros pour la métropole. Ça veut dire plus de 120 millions d'investissement, puisqu'en fait, c'est la moitié de ce qui reste en charge des communes. Actuellement, le plan de relance atteint les 80 millions d'euros. Donc, toutes les communes ont sollicité la métropole sur des projets, certains très ambitieux. Et après, on en reparlera. Mais si c'est vrai que si on n'avait pas eu en sortie du contexte de crise sanitaire cette option-là, on aurait sans doute réduit complètement l'ensemble de nos projets pour se concentrer sur un seul projet.
Il y a effectivement les subventions, le plan de relance, et puis il y a aussi la vente de terrain, la vente de nos capacités foncières qui nous ont permis aussi d'avoir des recettes intéressantes. Donc les projets d'investissement pour 2025, c'est bien entendu la fin de l'aménagement du centre-bourg. Vous avez vu que la démolition va pas tarder sur l'îlot 2. La démolition du bâtiment et normalement fin d'année le début du projet immobilier. La dernière tranche, on va faire en 2025 la dernière tranche de la vidéosurveillance qui portera à 95 caméras l'ensemble des caméras installées sur la commune. On va lancer l'étude géothermique de l'école Georges Sand parce que maintenant qu'on a donné à nos mounards, à une certaine partie de nos petits mounards une école exceptionnelle où ils sont bien au chaud, bien au frais l'été, on voudrait que ce soit la même chose pour Georges Sand parce que malheureusement c'est une vraie passoire thermique. Et il faut vraiment qu'on fasse une étude détaillée pour savoir quels sont les travaux nécessaires. Après, il faudra lancer l'enveloppe des travaux. Ça sera encore un autre problème. On a déjà lancé l'étude, ce qui est déjà un premier pas. Bon, tous les, bien entendu, c'est pas des travaux, j'ai mis des travaux habituels d'acquisition. Non, c'est les acquisitions qu'on fait d'entretien des bâtiments, d'achat de véhicules, de matériel pour travailler, les services de technique ont besoin de tondeuses, de matériel comme ça. Et alors, bien entendu, vous savez que le grand projet qui va voir le jour en 2025, c'est la réhabilitation du stade Camille de Rochetaillé, à la Bargette, puisqu'on a pu, sur ce projet-là, lancer une nouvelle demande de subvention au titre du plan de relance, puisque la rénovation de l'école Jules Verne nous avait compté comme deux dossiers, puisqu'ils considéraient qu'il y avait deux bâtiments, donc il y avait deux dossiers, et ça sera notre troisième dossier qu'on a pu raccrocher vraiment au dernier moment, parce qu'il fallait que les travaux soient débutés au mois de juin 2024 pour rentrer dans le cadre du plan de relance. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé, puisqu'on a démoli le terrain de tennis, vous savez, qui avait été abîmé par l'orage. Et donc, on a considéré que c'était effectivement le premier coup de pioche pour mettre en place ce nouveau stade. Donc, je vous rappelle, dans ce nouveau stade, il y a la création de deux courts couverts, de deux courts découverts et la création de deux padels. Donc, c'est puis tout un réaménagement. Le terrain de foot qui est actuellement en herbe va être mis en synthétique, va être mis dans un terrain synthétique aux normes. Et le terrain synthétique actuel, va être partagé en deux. Une partie où il y aura les paddles et une autre partie qui sera plus qu'un demi-terrain synthétique sur lequel il pourra y avoir des matchs de foot à 7 ou à 8, je ne sais plus, et surtout les entraînements, les choses comme ça. Voilà. Donc c'est un gros projet, un beau projet, puisqu'il y aura des aménagements d'un parking, d'un espace un peu de convivialité, donc, qui a été travaillé en collaboration, bien entendu, avec l'association de foot et l'association de tennis. Donc, je vous mets bien sûr que ces projets seront lancés en fonction des disponibilités financières.
C'est un budget, vous le savez, qui flirte avec les 3,5 millions. Hein.
Voilà.
TTC.
Voilà. Et c'est bien sûr, ils sont soumis aux subventions reçues et aux produits de nos ventes foncières. Donc, parce que pour le stade Camille de Rochetaillé, il n'y a pas juste le plan de relance. On a fait une demande au niveau de... Vous verrez d'ailleurs, on passe une délibération à tous les autres organismes qui pourraient nous aider. On a refait une demande auprès de la région. On a refait des choses comme ça. Donc, voilà, c'est important. Donc, le dernier point, c'est la synthèse d'investissement, c'est le graphique, hein, où on voit qu'effectivement, on est passé en 2022 à 550 000 euros d'investissement à 4 452 000 en 2024. Ensuite, donc l'évolution de la dette, hein, c'est ce que je vous expliquais. On s'était dit comme objectif de campagne que fin 2025, on aurait une dette par habitant de 780 euros. On est déjà en 2024 à 709. Donc vous voyez, on arrivera peut-être à passer en dessous de la barre des 700, ce qui serait bien sur 2025. Voilà, donc vous voyez qu'on est en dessous des 5 millions d'euros. Alors, c'est dû à deux choses, c'est qu'on emprunte moins et puis c'est aussi qu'on a certains emprunts qui s'éteignent. C'est-à-dire qu'on a certains emprunts qui arrivent à échéance, donc forcément qui ne sont plus dans la dette. Alors, ce qu'on appelle la capacité de désendettement, c'est bien simple, on prend le montant du montant des emprunts qu'on a à rembourser et on le divise par nombre d'habitants. Par le nombre d'habitants, et ça nous donne le nombre d'années dont on aurait besoin pour tout rembourser. C'est-à-dire que si on ne consacrait au budget que le remboursement si on décidait de rembourser tout ce qu'on doit en capital d'emprunt, combien d'années il nous faudrait pour le faire? Combien d'années de budget? On est parti de 20 années en 2018, où c'est là où on s'est un petit peu fait taper sur les doigts par la Cour régionale des comptes, puisque vous voyez que le seuil de vigilance est à 12 ans. Au-delà de 12 ans, on considère que la commune est un petit peu surendettée. Et on est maintenant à 2 années de remboursement, si ce qu'on appelle la capacité de désendettement, on est sur 2 ans. Voilà. Donc,
Alors, une petite nuance, c'est l'endettement par habitant. C'est le solde du capital restendu divisé par le nombre d'habitants. Là, on est à 709. Michel disait peut-être qu'on descendra en dessous des 700, c'est dans l'hypothèse où on n'a pas un nouveau recours à l'emprunt en 2025, évidemment. Or, sur notre budget, on a quand même, par principe, positionné 600 000 euros. Il n'est pas certain qu'on aille les chercher. Donc, si on ne va pas les chercher, on tombera en dessous des 700, mécaniquement. Par contre, si on va les chercher, ces 600 000 euros, on sera plutôt à 760 euros par habitant fin 2025. Ça veut dire qu'on aura tenu l'objectif de campagne qu'on avait annoncé en 2020.
Voilà, je crois que c'est la dernière. Voilà, écoutez, je vous remercie. Je reste à vos dispositions si vous avez des questions.
Oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein.
Non.
Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que vous l'avez vu, ça a été très calme en sortie de crise sanitaire en termes d'investissement. Puis là, on est parti sur des grands projets. On a atteint des niveaux d'investissement qu'on n'avait quasiment jamais connus sur la commune. On a atteint aussi des partenariats financiers, puisque si on met bout à bout toutes les subventions qu'on a obtenues sur ces projets, on est à quasiment 7 millions d'euros. Jamais la commune n'avait eu un tel niveau de partenariat. Ce n'est pas neutre, hein, rien que pour Jules Verne. 1,7 million de l'État sur les fonds verts. On est la seule commune à avoir atteint ce niveau de partenariat en 2024 sur la Loire. Donc voilà, ça joue aussi dans ce sens-là. Simplement pour dire que ça peut paraître extérieurement ambitieux, mais on l'a fait avec quand même beaucoup de prudence et de pragmatisme. On a fait des choix aussi. Hein. À un moment, on en reparlera. Il y a des choses qu'on aurait aimé faire qu'on n'a pas faites, évidemment. Mais on a fait les choses aussi avec beaucoup de prudence. Là, par exemple, sur le Camille de Rochetaillé, on a déjà, depuis quasiment un an, 170 000 euros de subvention accordée par le département. Donc ça y est, c'est acté. Et puis on va passer tout à l'heure une décision, on va solliciter potentiellement d'autres partenaires. On ne va pas rester les bras croisés. Alors la mécanique, c'est que toutes les subventions qu'on a, elles vont venir en diminution du coût global, et Métropole nous versera la moitié de ce qui nous reste à charge. Donc là aussi, on risque. Sur Jules Verne, je vous rappelle, je l'ai dit au moment des vœux, sur l'opération Jules Verne, 5,7 millions TTC, le coût, le prix de revient pour la commune, ce qui est resté à charge pour la commune, c'est 23%. Tout le reste a été financé par les partenariats. 23%.
Ceci qui existe, je l'avais noté, j'ai oublié de vous le dire, quand on fait des gros travaux comme ça, on a ce qu'on appelle la récupération de TVA. C'est-à-dire que nous, on paye les emprunts TTC et l'État participe à nous rembourser une partie de la TVA. Alors, je dis une partie parce que la TVA est à 20% et le taux de remboursement du fonds de compensation de TVA n'est qu'à 15,48, je crois, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Mais ça peut quand même, sur 5,7 millions de travaux, vous comptez pratiquement 15%. Ça fait quand même. Alors, le seul problème, c'est qu'on les reçoit avec un décalage de 2 ans. C'est-à-dire que les travaux qu'on a fait en 2024, on touchera la plus grosse. On en a déjà touché une petite partie déjà. On en touchera une partie en 2025, puisqu'on avait commencé les travaux en 2023. Mais la plus grosse partie et qu'on a bien entendu inclus dans nos recettes d'investissement 2025, on les touchera en 2025, puisque oui, donc on pourra les mettre qu'en 2026, puisque effectivement il y a 2 ans de décalage. On a mis en 2025 ce qu'on a fait en 2023.
Alors, je m'étais un petit peu interrogé sur cette règle, puisqu'en fait, le fonds de compensation de la TVA qui est reversé aux communes par l'État, ça peut être à 2 ans, à 1 an ou simultané. Et en définitive, au moment où il a fallu qu'on choisisse, nos niveaux d'investissement ne nous permettaient pas d'avoir le remboursement de la TVA l'année suivante. Et je peux vous dire que je le regrette, parce qu'on aurait vraiment apprécié de toucher les 15% sur Jules Verne l'année 2025. Là, on n'avait pas besoin d'aller faire un recours à l'emprunt. Donc voilà, ce sont les règles fiscales. Donc à un moment donné, on a dû choisir. Nos niveaux d'investissement ne permettaient pas de dire l'État nous rembourse l'année suivante, il faut attendre 2 ans. Bon, après, on a entendu beaucoup de débats depuis le mois de septembre sur la mécanique qui permettrait aux communes d'être remboursées immédiatement. Enfin, on a entendu beaucoup de choses qui ne verront jamais le jour. Oui. Et donc là aussi, dans les simulations qu'avait fait Métropole, c'était que ce taux de TVA qui est aux alentours de 16%, 15 et quelques, pouvait tomber à 12% dans les projets de loi de finances avant la fin 2024. Donc voilà, il y a encore beaucoup de choses qui sont incertaines, vous l'avez compris. Et là, on vous a présenté donc une orientation budgétaire qui est à la fois prudente, mais néanmoins conforme au travail qu'on a mené depuis de nombreuses années. Alors ambitieux, oui, parce qu'en fait, on a des beaux projets, mais on a aussi, pas que ces projets, on gère aussi à côté tout un ensemble d'investissements qui sont indispensables. On a parlé, on aura la deuxième tranche de la vidéoprotection, on va être livrée là très prochainement. La troisième tranche est engagée. Donc voilà, c'est tous les engagements de campagne, mais j'en parlerai tout à l'heure. Des questions par rapport à ces orientations? Donc, je vous propose de remercier Michel pour ce travail, et pédagogique d'ailleurs, parce que quand c'est fini, on a tout compris. Presque. Et puis on va pouvoir passer à l'ordre du jour du conseil municipal, si vous le voulez bien. S'il vous plaît, oui. Comment ? Donc on va commencer par le premier point, état des décisions du maire. Alors bon, c'est ces décisions qui ont été prises. Je ne sais pas si vous avez regardé le détail, il y a beaucoup, beaucoup de dépenses qui ont trait à la petite enfance. Et c'est normal, puisque cette année, on aura à nouveau la semaine de la petite enfance. Là aussi, avant, on la faisait chaque année. On a pris la décision, dès l'an dernier, de le faire une année sur deux. En 2025, c'est la petite enfance. Ce qui explique qu'on ait ces engagements de dépenses qui...
Excusez-moi. On est obligé d'engager aussi, en début d'année, toutes les comptes, les interventions de différents intervenants qui vont intervenir... Bien entendu, qui sont intervenus fin 2024 et qui vont continuer à intervenir au moins jusqu'en juin 2025. Voilà. Mais légalement, on est obligé d'engager les contrats dès qu'ils sont signés.
Bon, mais certains de ces contrats, si vous avez regardé le détail, sont bien ciblés sur la semaine de la petite enfance. Ensuite, on va passer au point 2, c'est la signature d'une convention de partenariat. Ah oui, j'ai pas, effectivement. Il y avait l'approbation du procès verbal de la dernière, du dernier conseil municipal qui était particulièrement dense. Est-ce que vous avez des observations par rapport à ce conseil municipal ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc, à l'unanimité, il est validé. Donc, la deuxième question, c'est la convention avec Laetitia Mounard. Je passe la parole à Antoine Di Paolo.
Oui, bonsoir. Donc, convention, signature d'une convention de partenariat pour la capture, la stérilisation et l'identification des chats errants avec l'association Laetitia Mounard. Élément d'information, monsieur le maire expose. La prolifération des chats errants peut être responsable d'un certain nombre de nuisances lorsque les populations sont trop importantes. À partir de ce constat, la commune a décidé de mener une politique durable et respectueuse de la condition animale et de l'environnement. La solution la plus appropriée pour lutter contre cette prolifération, qui respecte à la fois le bien-être de l'animal et le respect des règles sanitaires, est d'organiser des campagnes de capture, de stérilisation et d'identification des chats errants. L'association Laetitia Mounard souhaite intervenir en matière de protection des populations des chats errants et procéder à la capture des chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans les lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification et à les relâcher dans ces mêmes lieux. Dans ce cadre, il est nécessaire de conclure une convention de partenariat avec l'association. La présente convention établit des engagements de chacune des parties dans le cadre des campagnes de stérilisation et d'identification sur le territoire de la commune de Saint-Priest-en-Jarret. Donc, convention de partenariat, gestion durable de la population féline dans les lieux publics de la commune. Entre la ville de Saint-Priest-en-Jarret, représentée par M. Christian Servant, et l'association Laetitia Mounard, représentée par sa présidente, Mme Malika Martin, dont le siège est social est situé à la maison des associations, 7 rue du 8 mai 1945 à Saint-Priest-en-Jarret, appelée ci-dessous Laetitia Mounard. Préambule. La présente convention a pour objet de définir les obligations de chacune des parties dans le cadre de la politique de la ville relative à la gestion durable de la population féline par identification et stérilisation des chats sur la commune de Saint-Priest-en-Jarret. Contexte de la collaboration et du partenariat. Afin de compléter le partenariat signé entre la ville et la fondation 30 millions d'amis, la municipalité s'est donc approchée de l'association des Laetitia Mounard afin de réaliser des actions de gestion raisonnée et organisée de la population féline errante sur le territoire, en assurant notamment la capture des chats errants, le transport des animaux chez le vétérinaire et leur retour dans leur milieu de vie. Le lieu de capture des chats errants sera précisément identifié et décrit. Modalité de fonctionnement. L'association Laetitia Mounard s'engage à ne présenter que des chats errants non identifiés, sans maître ou sans détenteur connu. En aucun cas, des chats appartenant à des particuliers connus ne pourront relever de l'application de ces dispositions. Les chats sont identifiés au nom de la Fondation 30 millions d'amis en cas de prise en charge par la Fondation et au nom de la ville pour les autres cas. Les chats ainsi répertoriés, stérilisés et identifiés sont remis sur le lieu de capture préalablement défini. S'ils ne sont pas adoptables, ils relèveront du statut de chat libre au sens de l'article 211-27 du Code rural et de la pêche. Dispositions financières. Les frais d'identification et de stérilisation sont pris en charge par la Fondation 30 millions d'amis pour moitié. L'autre moitié sera prise en charge par la ville dans la limite des quotas fixés. Un accord écrit de l'association Laetitia Mounard à la commune définit les modalités d'intervention de chacun en amont des campagnes de capture. Au-delà des quotas fixés par la convention avec la Fondation 30 millions d'amis, l'association Les Tichamounards pourra poursuivre ses actions selon les mêmes modalités, mais le traitement des animaux sera à leur charge. Durée et résiliation, la présente convention est conclue pour l'année civile 2025, soit du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Elle pourra se renouveler par tacite reconduction à la date d'anniversaire. Dans l'hypothèse où l'une des parties ne souhaiterait pas reconduire la convention, elle en informera l'autre partie par courrier en recommandé avec accusé de réception au moins un mois avant la date d'anniversaire. La ville pourra à tout moment, pour un motif d'intérêt général ou d'ordre public, dénoncer la présente convention par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de 15 jours. En cas de non-respect par l'une des parties contractantes de ses engagements, l'autre partie se réserve le droit de dénoncer la présente convention par lettre recommandée avec accusé de réception, entraînant une suspension automatique du partenariat. La partie mise en cause s'obligera à donner des éléments d'explication dans un délai de 15 jours. Passé ce délai, et si aucun accord définitif n'est trouvé, l'autre partie pourra mettre fin immédiatement au partenariat dans un nouveau délai de 15 jours par lettre recommandée avec accusé réception. Je vous demande donc d'approuver la nouvelle convention et d'autoriser Monsieur le maire à la signer.
Des questions par rapport à cette convention ? En fait, elle vient se substituer au partenariat qu'on avait antérieurement, puisque l'ancienne association a disparu. Donc c'est une nouvelle association Mounarde qui a vu le jour pour prendre en charge ses missions. Des questions ? Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc, le principe de la convention est validé à l'unanimité. Je vous en remercie. Le point suivant concerne le dispositif de santé. Donc, je vous rappelle que dans le cadre de notre politique sociale qui visait à améliorer les conditions d'accès à une couverture de frais de santé, la commune avait souhaité accompagner l'accès au dispositif suivant à disposition des habitants. À l'époque, nous avions deux partenaires, Ma Commune, Ma Santé, qui était portée par l'association Axiom, et Ma Santé, portée par AXA France. L'objectif est d'offrir la possibilité aux Mounards de souscrire à une complémentaire santé à des conditions et des tarifs préférentiels sans aucune charge ou participation de la commune. La convention Ma Santé avec AXA France, approuvée lors de la séance du conseil municipal du 25 mars 2024, arrive à échéance et je vous propose donc de la renouveler. Quant à Ma Commune, Ma Santé, Axiom, nous n'avons plus de nouvelles. Je pense qu'ils sont devenus, je pense que c'était trop gros, trop important. Donc là, AXA vient régulièrement, ici en cette salle, recevoir les habitants pour étudier leur situation au regard d'une complémentaire santé. Des questions par rapport à la reconduction de cette convention ? Alors, je sais que parmi vous, il y en a qui les ont rencontrés, qui trouvaient que c'était assez intéressant comme démarche. Je rappelle que quand on veut une complémentaire santé, en particulier quand on est une personne âgée, il faut bien mesurer le panier de soins, c'est-à-dire le niveau de remboursement par rapport aux cotisations qu'on paye. Parce que plus on est âgé, plus on a des maladies qui sont prises en charge à 100%. Donc ce n'est pas la peine d'avoir une complémentaire santé qui viendra ensuite les prendre en charge puisqu'il n'y aura rien à prendre en charge. Donc pour cette convention, la reconduction, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc on la renouvelle et je vous en remercie. Alors le point suivant, c'est le, je sais pas, on en est à 5 ou 6 délibérations sur cette thématique, qui est celle de l'îlot 2. Vous avez eu sur table deux nouvelles questions qui seront évoquées après. Il y en a une qui est relative également à cet îlot qui comprend la salle de l'atelier. Le Code général de la propriété des personnes publiques confère un fondement législatif à la définition jurisprudentielle du domaine public immobilier. En application des dispositions de l'article L2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, font partie du domaine public les biens appartenant à une personne publique et qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public, pourvu qu'en ce cas, ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. A contrario, le Code précise que font partie du domaine privé les biens des personnes publiques qui ne relèvent pas du domaine public. Donc, en fait, une personnalité publique a des biens publics et des biens privés. Dans le cadre de la convention opérationnelle signée avec l'EPORA, compte tenu de l'implantation définitive du futur bâtiment construit par A2S IMO, validé par la commune, une bande de terrain appartenant à la commune doit lui être cédée et rattachée à la cession de la parcelle AH170. Vous avez eu des plans, une toute petite bande de terrain. Cet espace étant bien compris dans le périmètre de l'îlot 2 et dans l'appel à projet lancé par la commune pour trouver un opérateur, il convient de le désaffecter et de le déclasser. En effet, cette bande de terrain est constituée d'un espace vert non entretenu et d'un cheminement piéton débouchant sur une parcelle privée et desservant uniquement des habitations privées non habitées. Conformément aux dispositions donc de l'article 2211-1 de ce code, un bien qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public cesse d'appartenir au domaine public à compter du jour où il a fait l'objet d'un acte de déclassement formel, sauf disposition particulière, une simple délibération du conseil municipal suffit à faire sortir un bien du domaine public. En conséquence, il est demandé au conseil municipal de procéder à la désaffectation et au déclassement d'une bande de terrain d'une superficie de 21 mètres carrés, conformément au plan de division joint, de céder cette bande de terrain à la société A2S IMO et de compléter la délibération 24-12-03 en précisant que le prix de vente de la parcelle AH170 à la société A2S IMO au prix de 157 000 euros comprend également cette bande de terrain. Donc voilà, c'est un ajustement cadastral au regard de l'évolution du permis de construire. Donc il y a une petite bande qu'on leur rétrocède, donc on déclasse du domaine public pour le mettre dans le domaine privé, ce qui nous permet ensuite de leur rétrocéder. Des questions par rapport à ça? Vous l'avez repéré hein, sur le plan, il n'y a pas de souci. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc cette décision de déclassement est prise à l'unanimité et je vous en remercie. Le point suivant concerne donc une convention avec le Ciel Territoire d'énergie. Convention entre le Ciel, Saint-Étienne Métropole et la commune de Saint-Priant-Jarret pour le raccordement à l'éclairage public de dispositifs de comptage mobilité permanent. Ça peut paraître complexe, un truc vraiment très simple, mais qui nécessite une délibération. La présente convention entre le Ciel Territoire d'énergie, Saint-Étienne Métropole et la commune de Saint-Priant-Jarret a pour objet, le déploiement d'un dispositif de comptage mobilité permanent sur le territoire de la commune par son installation sur les supports d'éclairage public d'équipement ainsi que sa maintenance et exploitation. La présente convention détermine les modalités techniques et financières relatives à la pose, au raccordement et à la maintenance et exploitation de ces équipements et fixe les responsabilités qui en découlent pour chacune des parties. Elle définit également les modalités financières y afférentes et donc je vous demande d'approuver cette convention. Donc en fait, Métropole va installer sur certains de nos mâts des petits capteurs, des compteurs, pour savoir combien il y a de trottinettes, combien il y a de vélos, combien il y a de piétons qui passent sur le site qui est référencé. C'est une mesure de comptage qui viendra ensuite, si vous voulez, appuyer certaines décisions en termes de logistique en particulier, mais pas seulement, pour le déploiement des pistes cyclables. Des questions par rapport à cette convention? Moi, je l'avais signé quand on les a rencontrés. Frédéric Bidion m'a dit, vous pouvez pas, il faut d'abord passer un conseil. Ils vont mettre 2 ou 3 compteurs sur les mâts rue Pierre Mendès France. Bon, voilà. Donc, des questions pratiques? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc on valide cette convention à l'unanimité et je vous en remercie. Alors je ne sais pas d'ailleurs, Frédéric, si ces capteurs, ces compteurs resteront de façon permanente ou pas, je ne sais pas. Je pense que si, hein. Ça permettra aussi d'avoir dans le temps une idée de l'évolution en particulier de la circulation cyclable. Une autre décision qui est relativement courte, qui nous a été demandée par une association. Je prévois l'octroi de la médaille de la ville de Saint-Priant-Jarret aux personnes qui ont marqué la vie locale par une implication exceptionnelle ou contribué à son rayonnement. Afin de récompenser cet engagement, comme secrétaire dans le bureau de l'association des jardins familiaux, pendant de nombreuses années et comme jardinier, ce dernier a également initié les enfants des écoles au jardinage lorsqu'une parcelle leur avait été réservée aux jardins familiaux. Monsieur le maire, donc moi-même, demande de statuer sur l'attribution de la médaille de la ville à monsieur André Caon. Donc je vous demande de valider cette attribution pour reconnaître son investissement au sein de l'association des jardins familiaux, mais également toute la démarche pédagogique qu'il a pu entreprendre auprès de nos élèves. Des questions par rapport à ça ? Donc la remise de cette médaille est prévue samedi à 15h à l'Assemblée générale des jardins familiaux. Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? À l'unanimité, donc nous remettrons à M. Caon, sur décision du conseil municipal, la médaille de la ville. Ça c'est fait. Alors encore une intervention du ciel. Dans le cadre de l'intercommunalité avenant Opéra, adhésion au service de d'assistance à la gestion énergétique du ciel, territoire d'énergie. Considérant que la loi Elan, qui porte sur l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, a créé une obligation de réduction de la consommation énergétique des bâtiments tertiaires, elle est précisée par le décret du 23 juillet 2019 et l'arrêté du 10 avril 2020. Elle impose, la loi Elan, une réduction progressive de la consommation d'énergie dans les bâtiments à usage tertiaire afin de lutter contre le changement climatique. Le dispositif éco-énergie tertiaire stipule notamment que tout ou partie des bâtiments, publics ou privés, qui hébergent des activités tertiaires et dont la surface cumulée de plancher de ces dernières est égale ou supérieure à 1000 m² doit atteindre par décennie une consommation d'énergie seuil définie en fonction de la catégorie du bâtiment. Ou par défaut, réduire progressivement sa consommation d'énergie de 40% en 2030, de 50% en 2040 et de 60% en 2050. Considérant que la commune est adhérente à la compétence optionnelle SAGE, c'est un système de télégestion, c'est ça, hein, Frédéric, de nos bâtiments à distance, considérant que l'adhésion à ce service est prise pour une période de 6 ans minimum, et à l'issue de cette période, adhésion pour une durée annuelle par tacite reconduction, considérant qu'à cet effet, il convient de rappeler les modalités d'intervention du ciel territoire d'énergie qui se compose de deux parties au choix de la commune, adhésion dite complément, la commune paiera en plus de son adhésion habituelle un jour et demi par bâtiment pour l'année 2025, considérant que le montant de la contribution que la collectivité s'engage à verser au ciel territoire d'énergie est conforme au tableau des contributions du ciel territoire d'énergie pour l'année 2025 et s'élève à 588 euros par bâtiment valeur 2025, considérant que ce montant est versé au ciel territoire d'énergie au cours du premier semestre de l'année considérée, à défaut de paiement dans le délai de 30 jours à réception du titre de recette, il sera appliqué des intérêts moratoires au taux légal en vigueur, considérant que le détail des prestations, les conditions d'intervention du ciel territoire d'énergie et la répartition des rôles entre le ciel, territoire d'énergie et la collectivité sont explicités dans le document annexé à la présente délibération. Je vous demande donc de décider que la collectivité adhère à l'avenant Opéra, complément au service d'assistance à la gestion énergétique mis en place par le ciel, territoire d'énergie et décrit ci-dessus, et s'engage à verser les contributions annuelles correspondantes. Donc je vous demande de bien vouloir décider de choisir le type d'intervention suivant. Adhésion dite complément, la commune paiera en plus de son adhésion habituelle 1,5 jours par bâtiment pour l'année 2025. Nombre de bâtiments concernés, 8, et motorisés assignés, toutes les pièces à intervenir. Des questions par rapport à ça ? Oui ?
Corinne Mourgue, peut-on faire confiance au ciel sur cet outil ?
Alors, la notion de confiance, quand on est en partenariat, on va dire technique, Et opérationnel, bon, elle ne se pose pas. Hein. Ou alors, on sort des conventions avec le ciel et on gère tout par nous-mêmes. Là, il y a la loi Elan qui nous oblige à un certain nombre de perspectives et d'obligations dans l'avenir. Il faut bien qu'on puisse le mesurer. Bon, le ciel, c'est une énorme structure qui a une vocation départementale et qui est équipée, qui est outillée, je dirais, pour ce genre de mesures et de suivi. Nous, on ne l'est pas. Voilà. Donc oui, on fait confiance parce qu'on n'a pas le choix, hein, de toute façon. On n'a pas le choix. Alors bien sûr, ce n'est pas non plus mécanique. C'est-à-dire que ces réductions de consommation énergétique, elles seront suivies dans la durée par nous-mêmes, en particulier bon, un de nos agents qui suit ça au sein de la mairie, et par le ciel. Je ne peux pas dire autre chose. Après, on verra bien. Le ciel, c'est énorme hein, comme structure. Il gère c'est pour tout le territoire ligérien. Il gère énormément de domaines, en particulier l'éclairage public, nos gestions à distance.
Pas très bon sur l'éclairage public.
Mais c'est pas la notion technique qui est en cause, d'accord ? C'était un problème de gestion auquel on était confrontés. La gestion technique, elle est en train de se résoudre. Les 32 coffrets sont en train d'être équipés. Ils seront équipés d'horloges électroniques. Voilà, donc la dimension technique, elle n'est pas à remettre en cause. Ce qui a été remis en cause l'an dernier, c'est le suivi, la gestion et le conseil apporté par le ciel dans certaines décisions. Mais la dimension technique, on n'en a jamais été mécontent. D'autres questions par rapport à cette convention ? Donc on va passer au vote. De toute façon, vous avez compris que c'est quasiment incontournable, hein, parce que il faut qu'on s'engage sur l'avenir, 2030, 2040, 2050. Donc, il faut qu'on ait les moyens de suivre cette évolution. Il y aura une solution très simple hein, pour faire des économies, c'est d'avoir moins de bâtiments. Bon. Donc, on va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc, on valide cette convention avec le ciel. Et je vous en remercie. Le point suivant... C'est un élément de solidarité avec la population de Mayotte. Vu le Code général des collectivités territoriales, face au passage du cyclone Chido qui a dévasté l'île de Mayotte, l'AMF, l'Association des maires de France, en partenariat avec la Protection civile, la Croix-Rouge, France Urbaine, l'ANEL et l'UNCCAS, l'Union nationale des CCAS, a appelé les communes et les intercommunalités à participer à la solidarité nationale pour soutenir la population de Mayotte, ses communes et ses élus. Le gouvernement et l'ensemble des associations agréées de sécurité civile sont bien évidemment mobilisés pour accompagner la population frappée par cet événement dramatique. Sensible aux drames humains et aux dégâts matériels que cette catastrophe d'une ampleur exceptionnelle engendre, la commune de Saint-Priest-en-Jarret tient à apporter son soutien et sa solidarité à la population de Mayotte. Aussi, suite à l'initiative de l'AMF, et donc l'AMF 42 en particulier, l'AMF Loire, et son partenariat avec la protection civile, il est proposé au conseil municipal que la commune de Saint-Priest-en-Jarret contribue à soutenir les victimes du cyclone Chido à Mayotte en faisant un don d'un montant de 3 000 € à la protection civile, tour et sort à Pantin. Donc le débat est ouvert. Métropole a débloqué 20 000 € et vous voyez dans la presse régulièrement conseil après conseil, les communes qui s'inscrivent dans cette démarche. L'avantage de ce système, c'est qu'il y a un point d'entrée unique, c'est l'AMF, l'Association des maires de France. Et là, on a choisi l'opérateur, parce que je le propose, hein, c'est la protection civile, qui est la structure habilitée, quasiment militaire, pour gérer tout ce qui est logistique, distribution des denrées, de l'eau, installation des hôpitaux de campagne, etc. Plutôt que de donner à une association humanitaire ou à des réseaux dont on ne connaît pas forcément l'aboutissement de cette subvention. Là, c'est un compte collectif qui est ouvert par l'AMF et qui collecte les fonds au niveau territorial. On s'était interrogé au niveau de la métropole. Si on ne devait pas mettre en place le même mécanisme départemental dans le cadre des métropoles qui composent notre territoire pour faire face à un certain nombre d'éléments comme les dégâts qu'on a vus dans la vallée du Gier. Bon, pour l'instant, c'est pas fait. Qu'est-ce que vous en pensez de ce partenariat, ce soutien à Mayotte à hauteur de 3 000 €? Donc vais mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, qui est pour? Pour? À l'unanimité, la subvention est... La subvention est accordée via l'AMF 42, protection civile. Je vous en remercie. Bon, vous voyez dans la presse les niveaux d'intervention. On a vraiment un niveau qui est tout à fait honorable par rapport à ce que font des communes qui sont peut-être parfois un peu plus importantes que nous. Merci à vous en tout cas. Et merci pour eux. Je vais passer la parole à Christine qui va nous parler de la modification très importante du règlement intérieur de la médiathèque qui officiellement est inaugurée, je vous le rappelle, mardi prochain à 17h30. Parce que j'ai vu qu'à 19h, il y avait autre chose dans la continuité.
Oui, à 19h, il y aura un style karaoké. Voilà. On pourra tous chanter. Ce ne sera pas moi qui chantera. Avec l'ordre de Barbarie. En raison de la présence de jeux vidéo sur place, la médiathèque André Chaise souhaite mettre à jour son règlement intérieur. Donc, je vous invite à passer tout de suite à l'article 20 du règlement intérieur, jeux vidéo. La médiathèque organise des séances de jeux vidéo sur place sur lesquelles veille le personnel de la médiathèque. Selon les périodes, vacances scolaires ou années scolaires, ces séances de jeux peuvent être soumises à des réservations ou en libre accès. Si les supports ne sont pas empruntables à domicile, ils seront prêtés aux adhérents à partir de 7 ans, pour une durée d'une heure par jour, sur présentation de la carte de lecteur à jour de son inscription, les enfants restant sous la responsabilité de leurs parents. Donc, je me suis renseignée quand même sur les jeux vidéo qu'on me proposait, parce que... Bon. Alors, je vais vous lister, il n'y en a pas énormément de jeux vidéo. Il y a Mario, il y a Harry Potter, Rayman, il y a un jeu sur le foot avec FIFA et Spider-Man. Voilà, c'est des jeux gentils. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir adopter le règlement intérieur de la médiathèque tel que joint à la présente.
Des questions par rapport à ça? Alors, ça va être interdit au moins de 15 ans bientôt, non? C'est pas... Bon, en fait, on actualise notre règlement intérieur par rapport à la mise à disposition des jeux vidéo, puisque c'est sur site, on est bien d'accord, hein.
C'est sur place.
Sur site, hein, c'est sur place. Oui. Quand on dit que c'est limité à une heure, c'est oui. Donc forcément dans le cadre de la médiathèque. Donc je vous invite un mardi prochain, pour ceux qui le peuvent, d'être présents pour cette inauguration. Des questions par rapport à cette actualisation du règlement? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc voilà, merci à vous de cette actualisation. Donc vous avez eu deux documents sur table. Alors, pourquoi vous les avez maintenant et pas vous les avez pas eu la semaine précédente? Parce qu'en fait, la première qui concerne, pour la sixième au moins délibération, hein, la cession de la salle de l'atelier, parce qu'on a la chance d'avoir des notaires en face de nous, alors c'est pas les nôtres, hein, qui sont des gardiens du temple en termes de déontologie, avec des formules parfois qu'on a même nous du mal à comprendre. Dans leur expression, alors voilà, et ça bloque, oui, mais attention, etc. Bref, donc on vous présente cette délibération, ce qui ne veut pas dire que ce sera la dernière, parce qu'il y aura peut-être encore des ajustements à venir. Dans le cadre de la convention opérationnelle signée avec l'EPORA par délibération 24-05-05 du 14 mai 2024, le conseil municipal a décidé de faire substituer la commune dans ses obligations d'acquérir les biens auprès de l'EPORA par la société A2S Immo et a validé le prix de vente négocié de cette société, à cette société pour 850 000 euros. C'est l'ensemble de l'îlot 2. Ce prix de vente concerne l'ensemble des biens inclus dans le périmètre de la convention opérationnelle, la salle de l'atelier qui est la parcelle AH427D et une partie de l'espace situé devant cette salle, la parcelle AH160B. Précision faite que conformément aux dispositions de la convention précitée, ces terrains sont vendus nus à 2S Immo. Par délibération 24-11-03 du 4 novembre 2024, le conseil municipal a approuvé la cession de ces parcelles à la société A2S Immo au prix transitoire de 190 000 euros. Donc ça, c'est pour la salle de l'atelier, et il a décidé que le coût de démolition de la salle de l'atelier, parcelle AH427D, supporté par la société A2S Immo, serait déduite du prix transitoire précité. Donc, c'est A2S Immo qui fait démolir et on déduit le prix de la démolition du prix d'acquisition. Ce coût de démolition désormais établi par la société Malia, qui est celle qui a également été retenue par Epora pour détruire, pour raser l'ensemble du site, et validé par A2S Immo étant de 51 345 euros hors taxe, le prix de vente définitif à A2S Immo des parcelles AH427D et AH160B est donc de 138 655 euros. Le prix initial moins le coût de la démolition. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver la cession des parcelles provisoirement cadastrées AH160B et AH427D d'une contenance respective de 208 m² et 152 m² au profit de la société A2S Immo au prix de 138 655 euros, payable à terme aux conditions que le représentant de la commune jugera convenable en la matière. C'est ça la phrase imposée par le notaire. Aux conditions que le représentant de la commune jugera convenable en la matière. Bien, il fallait mettre, on l'a mis. Les frais d'acte seront pris en charge par l'acquéreur. Donc voilà, pour l'ajustement de cette décision, bon, il y a 51 000 euros de démolition. C'est la même entreprise. Alors on pouvait penser que bah, ça serait peut-être intéressant, puisque ils vont détruire en une seule fois. Hein. Ça y est, là, ce matin, là, l'énorme pelleteuse est arrivée. Bon, apparemment, il y aura bien deux facturations distinctes. Des questions par rapport à ça ? Je ne vous garantis pas que ce soit la dernière. Peut-être qu'il va encore y avoir des ajustements, parce que si jamais les surcoûts prévoient peut-être des surprises à 10 ou 15%, enfin voilà, bon. C'est compliqué avec certains notaires. Donc voilà, aujourd'hui, on vous passe une délibération au regard des éléments financiers et budgétaires dont on dispose. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc, on valide cette cession au tarif indiqué. Je vous en remercie. Le dernier point officiel, c'est une demande de subvention dans le cadre de la restructuration du complexe sportif Camille de Rochetaillé. C'est une demande de subvention à l'Agence nationale du sport. Annoncé par le président de la République le 5 septembre 2023, le nouveau plan 5000 équipements génération 2024 se déploie de 2024 à 2026. Il s'inscrit dans le prolongement du plan 5000 terrains de sport et dans la continuité des politiques publiques destinées à développer les activités physiques et sportives du public scolaire. L'Agence nationale du sport est chargée de mettre en œuvre ce plan pour permettre, au terme des 3 ans, la création ou la rénovation de 5000 équipements sportifs supplémentaires. Bon, de proximité, 3000 d'ici 2026, d'aménagement de cours d'école, 1500 d'ici 2026, et structurant 500 d'ici 2026. L'ANS, personne morale de droit public, est un groupement d'intérêt public associant des représentants de l'État, du mouvement sportif, des collectivités territoriales et des acteurs économiques et sociaux, fédérations, clubs et entreprises privées. Elle est chargée de développer l'accès à la pratique sportive pour tous et de favoriser le sport de haut niveau et la haute performance sportive, en particulier dans les disciplines olympiques et paralympiques. Le projet de restructuration du complexe sportif Camille de Rochetaillé, qui prévoit la création d'un terrain de tennis couvert, en plus de l'existant, de 2 terrains de tennis extérieurs, de 2 cours de padel couverts, d'un terrain de football à 11 en herbe synthétique de niveau T5 et d'un terrain de football à 7 en herbe synthétique et l'agrandissement du clubhouse pourrait bénéficier d'une subvention de l'ANS au titre de l'axe 3 équipement structurant. Le montant global du projet s'élève à 3 572 480 euros hors taxes et le plan de financement prévisionnel est le suivant. Donc vous avez le détail pour arriver à ces 3,5 millions entre les bâtiments et puis l'ensemble des prestations et études. Les recettes, donc nous avons 161 670 euros qui ont été notifiés par le département. On pourrait demander jusqu'à 20% à l'ANS, soit 714 496 euros. Et puis le solde serait réparti pour moitié entre le fonds de concours métropolitain à la hauteur de 1 348 157 euros et la commune de Saint-Prié, 1 348 157 €. La commune étant maître d'ouvrage de cette opération, il demandait au conseil municipal de solliciter pour ce projet une aide financière auprès de l'Agence nationale du sport au titre du dispositif plan 5000 équipements axe 3, équipements structurants, pour un montant de 714 496 €, et de m'autoriser à déposer le dossier de demande de subvention correspondant et à signer tout document relatif à ce dossier et à cette demande de subvention. Donc ça continue, hein. On vous l'a dit, on va continuer à solliciter des partenaires. Après, là, derrière, on a normalement les fédérations de foot et de tennis déclinées au plan local, au régional, on verra bien. Bon, c'est une agence qui... On n'est pas certain d'avoir... On peut demander jusqu'à 20%. Vous avez vu qu'en ce moment, il y a un grand débat sur le devenir de tout un ensemble d'agences nationales. Bon, j'espère qu'elle pourra au moins nous attribuer une subvention avant peut-être de disparaître, mais je pense que celle-ci, elle restera quand même comme agence. Des questions par rapport à cette démarche? Et on va continuer, hein, en fonction des opportunités qui se présenteront. Comment? La région, on a demandé, oui. Et puis, il y aura les structures sportives. Des questions?
Vas-y. Oui, le budget est hors taxe. Et la TVA est remboursée à 15% au lieu de 20%. Donc, on a une perte de 5% sur la facturation et sur le déboursé général. Est-ce que ces 5% de perte ne pourraient pas être inclus dans le budget général de... Non, c'est pas... Il me semblait que... Non, mais j'aurais aimé.
La TVA, elle apparaît sur les factures de prestations ou d'acquisition. Donc elle est certaine, si tu veux. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'on gonfle artificiellement un budget pour intégrer le delta. De ce fait, c'est l'ensemble du budget qui augmenterait. Donc, et puis après, les subventions et puis les financements, ils sont accordés sur les dépenses réelles et pas sur un budget prévisionnel. D'autres questions? Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc à l'unanimité, on valide donc cette demande de subvention. Je vous rappelle donc l'inauguration de la médiathèque mardi prochain et le mardi 11 mars à 19h au NEC, les rencontres Mounard. Il y aura des petits changements cette année. Nous aurons une personnalité qui interviendra en première partie, comme on avait fait une année la gestion des déchets et puis au Vélisor. Là, ça sera une personnalité qui viendra exposer un petit peu ses rôles et missions sur le département. Ensuite, Michel nous présentera rapidement les problématiques budgétaires et financières. Et moi, je ne parlerai. Les autres années, on faisait le bilan de l'année écoulée. Ça, on ne va pas en parler cette fois-ci. Je ne parlerai que de nos deux ou trois projets 2025, de façon à être très court dans les présentations et pouvoir se consacrer après au jeu de questions-réponses avec les participants. Ce qui serait bien, c'est qu'à 20h ou plus tard, on puisse engager les questions-réponses avec la population. Voilà. Le conseil est donc terminé. Et par contre, je vais vous demander aux élus de rester un tout petit moment, si vous le voulez bien. Merci.